Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
On a le plaisir d'avoir Dr. Romain Fati, qui est Senior Lecturer, School of History, au Research School of Social Sciences, à ANU, Australian National University. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Lucas.
D'habitude, vous êtes notre invité pour parler de l'histoire cachée d'Australie. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler de la politique française. Et vous êtes sur place en France actuellement. Et on va parler de cette campagne des législatives, une campagne express, disent certains. Peut-être d'abord, pour commencer, votre analyse du premier débat de mardi dernier, le 25 juin. Et pour vous, qui a été le candidat le plus convaincant?
Alors, c'est très compliqué de réagir à chaud sur des débats parce que, moi, l'analyse que je vais vous donner, c'est qu'en réalité, je trouve que ces débats-là polarisent l'électorat dans le sens où, en fait, généralement, il y a peu de personnes qui sont convaincues de changer leur opinion par la performance d'un tel ou d'une telle. Ce qui fait qu'en fait, souvent, nous regardons les débats pour nous rassurer que nous votons vraiment par conviction pour un programme qui nous plaît. Donc, on y vient pour renforcer ses opinions, un peu comme les algorithmes Twitter et Facebook. Pour répondre plus clairement à votre question, on a vu, on voit dans les débats qui ont lieu, et celui que vous référez, un Rassemblement national extrêmement offensif, une majorité, enfin anciennement majorité présidentielle, énormément sur la défensive, et puis une gauche qui a énormément d'espoir, puisque on voit que dans les sondages, le Nouveau Front populaire a su séduire des électorats assez différents. Donc on voit très clairement trois camps qui se polarisent et paradoxalement, on voit se produire la clarification qu'avait souhaité le chef de l'État. Alors certes pas dans la direction qu'il aurait pu souhaiter, mais il y a effectivement une clarification du paysage politique français, au moins pour se présenter aux élections, parce qu'on sait bien que des groupes qui se présentent ensemble à une élection ne sont pas obligés de rester ensemble pour former des alliances de gouvernement. Donc ce qu'on voit, il faut que tout le monde soit clair là-dessus, ce qu'on voit en ce moment en termes de groupement politique n'est pas ce qu'on va retrouver dans l'Assemblée nationale. Ça peut paraître paradoxal, mais moi je parie mes deux mains là-dessus.
Et depuis votre arrivée en France, est-ce que vous avez été surpris par cette percée du Rassemblement national?
Eh bien, pas tellement. En fait, là, c'est l'historien qui parle. Et je vous dis pas tellement à deux égards. Le premier égard, c'est que déjà, je ne pense pas que l'on puisse coller des résultats d'élections législatives où 48% des Français se sont abstenus sur des élections législatives. L'enjeu est national et pas européen. La mobilisation sera sans doute beaucoup plus forte. Donc, est-ce que le même schéma de vote va se reproduire? Je ne sais pas. Pour ce qui est de la montée du Rassemblement national, il s'explique par plusieurs choses. Et la première de ces choses, il faut le reconnaître, c'est le succès de Madame Le Pen d'avoir réussi à transformer un parti d'extrême droite radicale en un parti populiste. Pour les auditeurs qui seraient les plus jeunes d'entre nous, il faut se souvenir que le Rassemblement national s'appelait avant Front National et qu'il a été formé par des individus qui ont parfois été au tribunal et ont perdu leur procès parce qu'ils faisaient l'apologie de l'Holocauste ou parce qu'ils faisaient partie d'anciennement des partis pro-Algérie française, où on a vu aussi des cadres du Rassemblement national avec des liens très forts avec des personnes très peu fréquentables pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, j'entends la SS et les nazis. Donc il y a un background historique qui est avéré. On ne peut pas nier la tradition fasciste et de droite dure du Front National. En revanche, on sait très bien que Marine Le Pen a travaillé extrêmement dur pour dédiaboliser le Front National. Et la dédiabolisation a été un réel succès. C'est-à-dire que le parti a réussi à augmenter sa base électorale sur des franges de l'électorat qui n'étaient traditionnellement pas les siennes. Ça a commencé avec les travailleurs. On a vu qu'un certain nombre de travailleurs passaient de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis, les retraités, en jouant sur certaines peurs très ancrées dans cette catégorie sociale. Et puis, plus récemment, les jeunes, avec le succès de M. Bardella sur les réseaux sociaux. Ce faisant, ce succès, il faut le relativiser, parce que il est fondé sur, pour le dire très clairement, raconter tout et n'importe quoi à l'électorat. C'est-à-dire que les promesses qui sont faites au Front National aujourd'hui n'ont plus de cap politique. Avant, le Front National avait une lecture extrêmement claire, alors on pouvait être d'accord ou probablement pas d'accord avec ça, mais il y avait une idéologie assez droite, assez claire. Aujourd'hui, ce qui est devenu Rassemblement National propose des choses complètement antithétiques. Quand on compare par exemple, ce qu'ils proposent en termes social ou éducatif vis-à-vis de ce qu'ils proposent sur l'immigration, enfin, on a un programme girouette. Qu'est-ce que la population pense ? Alors, le cas typique, c'est les retraites. On voit bien qu'ils ont énormément de mal à clarifier leur situation. Un jour, c'est 60 ans, un jour, c'est 62 ans. Puis un jour, on va rien faire. Et puis non, comme voilà. Donc, en termes de programme économique, c'est clairement, en anglais, on dit « wishful thinking ». Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment aussi que l'électorat ne se mobilise pas, que les candidats sont assommés, c'est une campagne assez rapide, trop courte, il y a probablement le rôle des vacances d'été dans tout cela ?
Oui, bien sûr, mais ça, c'est la stratégie du président. Il y a deux choses pour répondre à cette question. La première, c'est que cette campagne est nécessairement courte parce que c'est un impératif constitutionnel. Quand vous dissolvez l'Assemblée nationale, avec l'article 12 de la Constitution, cet article vous donne au minimum 20 jours et au maximum 40 jours pour organiser des législatives. Donc, ces législatives sont finalement dans la norme. Elles auraient pu peut-être être reculées d'une petite semaine, mais alors on aurait été voté le dimanche 14 juillet, ce qui n'est pas concevable pour les Français. Donc, on tombe un tout petit peu avant l'été. On a vu que énormément, des centaines de milliers de Français se sont précipités pour faire des procurations. Je pense que mobilisation, il y aura. Que l'on s'en réjouisse ou non, a priori, il semble plutôt qu'on tende vers un score assez important de participation dès le premier tour pour ces législatives. Quant à la question des députés, évidemment, M. Macron a dissous l'Assemblée nationale au moment probablement le plus propice pour lui et son parti. Aurait-il attendu septembre, voire octobre et la rentrée politique ? Il est très certain que le soutien à sa majorité se serait encore plus érodé. Donc, choisir de faire ça avant les JO, avant l'été, le vrai été, correspond à une logique de se dire on va limiter l'hémorragie. Et par ailleurs, peut-être que on va même consolider notre base électorale. Alors ça, je n'en suis pas certain. Et enfin, une chose qui est assez importante, c'est que cette élection suit de très près l'élection européenne où de nombreux acteurs se sont épuisés sur le terrain et ont dépensé énormément d'argent de parti. Et donc, il attrape un peu les partis, en surprise, et cet effet de surprise peut-être jouer en sa faveur. Ça, on ne peut pas faire de prédiction, on le saura dimanche 30 juin à 20h.
Donc il y a cette possibilité d'une remontada, comme on dit, pour ce parti présidentiel à quelques jours du premier tour ?
Elle me semble difficile, mais elle n'est pas exclue. C'est-à-dire que moi, l'analogie qui n'est pas nécessairement bonne, on se souvient, et elle n'est pas bonne parce qu'il y a une question d'échelle, on se souvient de 1968 et de la crise politique profonde, et la France s'est arrêtée pendant 3 semaines, 1 mois, et énorme contestation du gouvernement de Gaulle. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les urnes quand il a le courage de dissoudre l'Assemblée ? une majorité pour le parti gaulliste, comme il y en avait rarement eu. Je ne pense pas que ce cas va se reproduire, parce qu'on n'est pas dans une situation de chienlit, comme aurait dit le général de Gaulle à l'époque. Comparable, hein. C'est pas la crise des Gilets jaunes, c'est pas mai 68. Donc effectivement, l'argument « c'est moi ou le chaos, ou c'est moi ou le désordre » prend probablement moins. Mais étant donné qu'il y a une polarisation des extrêmes, quand vous avez un parti du centre en France, vous écrasez forcément la gauche modérée et la droite modérée. Si bien que les gens qui restent dans ces partis traditionnels de gauche modérée et de droite modérée sont obligés de s'allier avec des pôles plus forts vers les extrêmes. On l'a bien vu, hein, le glissement d'Éric Ciotti vers l'extrême droite qui s'est opéré déjà depuis des années mais qui l'a été officialisé. Et les modérés, des gens qui ont voté Glucksmann au Parti Socialiste, qui découvrent qu'en fait, bah, ça va être le nouveau Front Populaire avec un pôle fort de chez LFI, on voit bien cette polarisation de l'électorat. Donc peut-être que cette polarisation trop à gauche et trop à droite peut faire fuir un certain nombre d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements populistes. Voilà.
Et le jour après, le 8 juillet, quel scénario envisage-t-on ? Une coalition inédite ? Est-ce que, si la coalition de la gauche arrive au gouvernement, est-ce qu'elle va pouvoir tenir au long terme ?
Alors, très clairement pas, mais je vais vous répondre avec tout un tas de scénarios possibles. Le premier scénario, qui pour moi, je pense, est le moins réaliste, ce serait une majorité complète, une majorité absolue, donc au moins la moitié plus un des 577 sièges de l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national. Pour tout un tas de raisons, je ne pense pas que ce soit possible, ne serait-ce que parce que la logique des triangulaires au second tour risque de jouer en leur défaveur. Deuxième cas de figure, une coalition Rassemblement national avec certains députés Reconquête et Républicains d'Éric Ciotti, où là, effectivement, le Front national a une majorité en minorité avec des alliés et peut proposer un gouvernement. Bon, c'est une possibilité, elle est plus probable que la première que je vous ai donnée, mais je trouve qu'elle est faible. Après, vous avez la possibilité d'une majorité présidentielle renforcée, mais un peu plus clivée. On voit bien que monsieur l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a pris ses distances pour des raisons qui sont les siennes vis-à-vis de 2027. Cette possibilité d'un gouvernement Macron renforcé, elle existe également, mais elle est plutôt faible. Après, vous avez l'extrême inverse d'une gauche qui serait, je ne lui donne pas la possibilité de se retrouver en situation de majorité absolue. Très clairement, je ne pense pas que ce soit possible. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait sur ce point-là. Peut-être qu'une gauche en minorité arriverait à séduire les ailes de gauche des partis centristes. C'est une possibilité. Moi, la possibilité que je vois peut-être la plus clair, ça va être une alliance de la majorité présidentielle qui va se retrouver assez sévèrement ballottée par le groupe, par exemple, Parti Socialiste à l'intérieur du Nouveau Front Populaire et par les Républicains modérés qui n'ont pas voulu rejoindre Éric Ciotti. Et donc, c'est la majorité d'entre eux. Donc, si vous avez un groupe ensemble, donc c'est-à-dire Modem, Horizon et Renaissance, la majorité présidentielle, qui souhaite travailler avec des modérés du Parti Socialiste et des modérés du Parti Républicain, les Républicains, pardon, c'est une possibilité. C'est-à-dire que le jour d'après, on va se retrouver dans des situations où il va y avoir énormément d'accords entre les partis pour définir une manière de travailler ensemble. La France n'y est pas habituée, hein. C'est quelque chose de très commun en Belgique, de très commun en Italie, de très commun en Allemagne. Mais en France, on a l'impression que des gens qui travaillent ensemble dans des partis différents, c'est une hérésie. Or, pas du tout, parce que généralement, ces gens-là ont quand même l'intérêt de la France, faut l'espérer, au devant d'eux. Donc, je n'ai pas de réponse claire à vous donner. Je vous ai donné une série de possibilités. Personnellement, j'aurais du mal à leur donner un pourcentage. Je trouve qu'on est dans une situation où les choses évoluent vraiment au jour le jour. Là, on voit qu'il y a une polarisation qui se clarifie entre un pôle Front Populaire à 25, 27, 28% des intentions de vote, un pôle majorité présidentielle autour de 20, 21, 22 et un pôle RN entre 32, 33, 34%. Mais ça, c'est le premier tour. Ce qui va se passer au deuxième tour, ça dépendra réellement des situations triangulaires où certains candidats se choisiront ou pas de se désister.
Et si jamais il y a un gouvernement dirigé par le RN, le Rassemblement National, quel sera l'impact sur l'avenir des relations franco-australiennes ?
Très clairement, je vous le dis et je l'espère de tous mes voeux. Je pense qu'il faut être honnête avec les auditeurs. Je n'ai aucune affiliation avec un parti politique, mais très clairement, je n'irai pas voter Rassemblement National, ce parti, voilà. Je préfère le dire très clairement, donc parce que ça a un impact sur mon analyse et qu'il faut être honnête. Je ne pense pas que cette situation soit probable. En revanche, si effectivement le Rassemblement National était mené à former un gouvernement dans le cadre de la Ve République, généralement, la politique étrangère échoit au président. Parce qu'il faut bien se rappeler que si M. Bardella était appelé aux fonctions de Premier ministre parce qu'il avait une majorité claire, M. Macron demeure le président de la République avec les prérogatives qui sont celles d'un président de la République. Certains de nos auditeurs se souviendront des années Chirac-Mitterrand, où vous aviez Mitterrand qui partait dans un Concorde à l'ONU et Jacques Chirac qui le suivait dans un second Concorde. Pas parce qu'ils se détestaient au point de ne pas voyager ensemble, pas du tout, simplement c'était pour une question de sécurité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour tout ce qui était politique étrangère, à l'Europe également, on voyait le président français et puis après son premier ministre qui faisait un second discours, parfois différent. Donc c'est des situations un peu compliquées. Vis-à-vis de l'Australie, dans la mesure où l'Australie n'est pas un de nos partenaires majeurs, hein, très clairement les ambassades qui comptent, vous avez Berlin, vous avez Washington, vous avez Londres, l'Australie compte, mais ce n'est pas un de nos partenaires prioritaires. C'est un partenaire important, puisque nous sommes deux démocraties libérales. C'est un partenaire avec lequel il y a beaucoup de choses à développer, mais je ne pense pas que un changement de gouvernement de ce côté-là entraîne des changements de politique étrangère radicaux, dans la mesure où, si on oppose la présidence de la République au gouvernement, il faut se rappeler que dans la politique française, le MAE, le ministère des Affaires étrangères, enfin anciennement, puisque le ministère de l'Europe des Affaires étrangères, est assez, je n'aime pas utiliser l'expression un État dans l'État, mais c'est un ministère qui est plus constant, voilà, plus traditionnel, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les changements risquent de ne pas être aussi majeurs qu'on pourrait les attendre. Sachant que je vois très clairement mal une majorité Front National le 8 juillet.
Docteur Romain Fati, merci infiniment d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt pour l'histoire cachée d'Australie.
Mais je vous remercie, bonne journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.